Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais d'abord souligner ce qui nous rassemble et les signes que Dieu nous donne aujourd'hui. Puis après, parler de deux choses en particulier. D'abord, ce qui nous rassemble, c'est la bénédiction de la maison de fidèles de notre paroisse, le diacre Paul et Isabelle. C'est leur maison de campagne, mais c'est quand même quelque chose d'important dans leur vie. Et puis, c'est vaste. Probablement, ils vont rassembler ici beaucoup de parents et d'amis. Vous avez bien regardé et écouté la bénédiction de la maison. Il s'agit surtout de purifier les lieux. Parce que tout le cosmos, depuis la chute de l'homme, est impuanti par les démons. Alors, c'est beaucoup moins depuis la théophanie. Quand le Christ, à la théophanie, il a libéré le cosmos en descendant dans l'eau. C'est beaucoup moins, bien sûr, depuis sa mort et sa résurrection. Mais quand même, nous ne sommes pas encore dans le monde transfiguré. Et donc, les démons sont actifs, très actifs, dans la création. À chaque page de l'Évangile, à chaque page du Nouveau Testament, on parle des démons. Ils font tout pour empêcher les hommes d'être sauvés et détruire l'œuvre de Dieu. Et donc, on fait des exorcismes et on bénit les lieux où les gens vivent. Mais Paul et son épouse ont eu cette très très bonne idée de dire « On ne va pas faire que cela, on va célébrer une liturgie. » Ça, c'est tout à fait remarquable, c'est tout à fait extraordinaire. Je vais y revenir. Mais c'est plus important la liturgie que la bénédiction des maisons. Dans l'Église antique, les exorcistes étaient des clercs mineurs, parce qu'on estimait que chasser les démons, c'était une petite chose. C'était les prêtres qui baptisaient. Ça, c'est grand. Et ça, c'est éternel. Alors, on est d'abord réunis pour cette bénédiction de maison et pour célébrer une liturgie paroissiale, on pourrait dire champêtre, mais qui a un peu un caractère missionnaire, parce que nous sommes loin de Paris et nous sommes dans la vieille terre de France, dans la province du Maine. Mais il y a aussi beaucoup d'autres signes. Nous avons reporté la fête de Pierre et Paul, hier, 29 juin, qui est une fête très très importante. On l'a reportée au dimanche. Il se trouve que notre diacre s'appelle Paul, donc c'est aussi sa fête. C'est aussi le 30 juin, la fête du Concile des apôtres. Ça mérite qu'on en dise un mot tout à l'heure. C'est quelque chose de très très important pour tout l'avenir de l'humanité. Il a fallu trancher une question extrêmement grave. J'espère ne pas l'oublier quand je vais vous parler de Pierre et Paul. Et puis aussi, il y a un saint de Gaulle qui est important, qui est saint Martial de Limoges. On a au moins deux personnes qui portent ce prénom parmi nous. Le village qui est ici s'appelle Saint-Martin. Et il est le second patron de notre paroisse. Il est le grand évangélisateur de la Gaule. Et ici, on est dans la métropole de Saint-Martin. Il était archevêque métropolitain de Tours. On est en troisième province lyonnaise, ou non province romaine. On est sur son territoire ici. Et enfin, nous avons fait un pèlerinage hier à un saint local qui est Saint Cénéré, qui fut un des apôtres du Maine. Et les saints locaux sont des gens très importants. Ce sont eux qui ont évangélisé et purifié les lieux et sanctifié par leur vie sainte. Voilà tous les éléments, tous les signes que Dieu nous donne. Je voudrais simplement essayer de souligner deux choses ici, aujourd'hui. D'abord la sanctification des lieux, et ensuite Pierre et Paul. Qu'est-ce qu'ils représentent pour l'Église? Les anges et les hommes ont la garde du cosmos. Dieu a confié toute la création aux anges et aux hommes. Mais pas de la même façon. Pas du tout de la même façon. Chut. Les anges sont les gardiens de toutes les lois cosmiques. Et ils veillent sur toute la nature. L'évêque Jean disait, ils sont des lois vivantes. Ce sont des lois personnifiées. C'est eux qui gardent les astres, la matière minérale, les espèces végétales, les espèces animales. Il garde aussi les lieux. Il y a un ange de ce village. Il y a un ange de la province du Maine. Il y a un ange qui veille sur la France. Il y a des anges qui veillent sur les peuples. Installez-vous, les enfants. Voilà. Il faut voir, il faut se souvenir qu'il y a une présence angélique énorme. Les anges, c'est 99. L'homme et le cosmos, c'est 1. Vous vous souvenez de la parabole de la brebis perdue? Tous les pères de l'Église ont dit, c'est le rapport entre le monde angélique et l'homme et le cosmos. L'homme porte le cosmos en lui. Donc c'est pour vous dire l'immensité du monde angélique qui veille, qui est gardien, garant. Et l'homme. L'homme n'a pas du tout la même vocation que l'ange. L'homme, dans le jardin des délices, dans le paradis, il a reçu de Dieu l'ordre de prendre soin de ce jardin, le jardin de l'univers, de prendre soin de lui, de le cultiver et de l'élever jusqu'à Dieu. Dieu a dit à l'homme, sois un Dieu, sois mon image dans le cosmos, élève tout jusqu'à moi. Vous avez vu, Dieu, il pose des choses toutes petites par rapport à lui, mais il a semé dans tout ce qu'il a créé la loi du progrès. Montez jusqu'à moi. Et on monte par l'humilité et par l'obéissance. Et on descend par l'orgueil. Et Dieu nous a demandé de prendre soin de ce cosmos, mais pas seulement de le garder, de l'amener jusqu'à la transfiguration. Et pourquoi et comment l'homme peut-il faire cela? Parce qu'il a reçu de Dieu la prêtrise. Les anges ne sont pas prêtres. Vous avez vu dans la liturgie, il y a des prêtres, il y a des diacres. Les diacres symbolisent le monde angélique. Mais le diacre est un serviteur qui fait la navette entre le ciel et la terre. Le prêtre, il a la prêtrise. Pouvoir divin que Dieu donne aux 12 apôtres. Pouvoir de consacrer les dons et pouvoir de délier les hommes de leurs péchés. Les anges n'ont pas cela. Et d'ailleurs, il y a des textes liturgiques qui disent quelque chose de très beau. Les anges voudraient bien jeter leur regard derrière le voile, ils ne le peuvent pas. Et l'homme a reçu ce trésor. Et Satan est furieux de cela. Comment l'homme, cette poussière qui tirait du sol, comment est-ce que tu as pu lui donner un tel pouvoir divin? Tu es fou! C'est pour cela que Satan se rebelle. Il dit, comment tu peux t'intéresser à de la boue? Alors que nous, nous sommes des esprits. Ah. Ça demandait qu'il fasse l'abnégation de lui-même, comme Saint Michel a fait. Et de recevoir les paroles de Dieu sans jugement. De mourir à ses propres pensées. C'est cela que Dieu nous demande. C'est une kénose de mourir à soi-même. Mais il le demande au monde angélique, il le demande à nous. C'est cela ressembler à Dieu. Et l'homme a cette vocation de sanctifier les lieux. D'abord, de parvenir lui-même à la déification en vivant chrétiennement et en communiant au corps et au sein du Christ et en étant déifié, de transfigurer tout le cosmos. Ce n'est pas la même vocation. Vous voyez, les anges et les hommes ont des vocations différentes. Mais évidemment, nous coopérons les uns avec les autres. Ce que nous faisons aujourd'hui est très important. Célébrer dans les églises, c'est très bien, c'est normal, parce que c'est la maison de Dieu et que ça annonce le royaume de Dieu. Mais le cosmos est aussi un temple de Dieu. Et c'est bien aussi de venir célébrer dans les maisons des fidèles et aussi dans la nature, parce que c'est le temple de Dieu. Et ce que nous faisons aujourd'hui est très très important, de venir sanctifier le lieu. Et quand nous allons tout à l'heure communier au corps et au sang du Christ, c'est le début de la déification. Il n'y a rien de plus important au monde que la liturgie eucharistique. Tout le reste est secondaire. Prenez la vie des saints, lisez-les. Et vous verrez, ils ont dit, c'est absolument capital. C'est l'acte, l'activité la plus importante du monde. Tout le reste est secondaire. Parce que c'est le début de la déification de l'homme. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est cela, sanctifier ce lieu. On vient y semer la parole du Christ. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est Pierre et Paul. Si deux hommes sont absolument l'opposé l'un de l'autre, ils ont des tempéraments totalement différents, ils ont une histoire différente, Ils sont socialement complètement différents. Qu'est-ce qui les unit? Ils sont juifs. Pas de la même façon. Pierre et Paul représentent deux aspects de l'homme. Ils représentent aussi deux aspects de l'Église. On les appelle les coryphées. En grec, ça veut dire le porte-parole. Et l'un et l'autre sont des porte-paroles du Christ. Pierre, c'est un juif de Galilée. C'est un homme inculte. Il n'a jamais fait d'études. Une petite condition. C'est un patron pêcheur. C'est un artisan. C'est un homme de la matière. Et Pierre, il a la qualité de ceux qui sont de cette lignée. Vous avez vu, les gens qui sont travailleurs manuels ou artisans, ils ont la conscience de la matière. Et ils sont droits, en général. Ce n'est pas des gens tordus. Pierre, il est un gars qui est droit. Il ne triche pas. Et quand le Seigneur l'appelle, il vient. Et on peut dire que les 12 apôtres historiques sont comme Pierre. Ils représentent le collège apostolique historique. C'est le collège des Juifs galiléens. Il y a quelque chose de merveilleux chez lui, c'est sa spontanéité. Vous avez vu l'évangile qui est remarquable. Le Christ, il dit, qu'est-ce qu'on dit de moi? Il se préoccupe de savoir comment il est reçu. Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Il vit avec le rabbi, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre prend la parole, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, merveille des merveilles, un diamant. Formidable. Et le Christ lui dit, c'est mon Père qui t'a donné ça par le Saint-Esprit. Intéressant. On devrait s'en souvenir plus en Occident. Il dit, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de chair et du sang. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de mon Père qui t'a dit cela. Et c'est là-dessus que je vais construire l'Église, sur cette foi qui est le roc. Ça, c'est la grandeur de Pierre. Et puis, vous voyez, Pierre, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renier son maître. C'est terrible. Il a fait une merveilleuse confession de foi. Il va dire, ce type-là, je n'ai jamais vu, je ne connais pas. Le Christ le regarde, ils sont à 10 mètres l'un de l'autre, le coq chante. Pierre est changeant. Il se précipite, mais nous sommes comme ça. Il était lâche, mais nous sommes comme ça. Souvent, on va de l'avant, puis après on recule, et on est lâche. Nous avons cette psychologie. Et il y a une chose qui est intéressante chez Pierre, c'est qu'il représente, on pourrait dire, l'enracinement, la tradition. Vous vous souvenez à la Transfiguration, il y a Pierre, Jacques et Jean. Le Christ, il se montre déifié devant les apôtres parce qu'il va bientôt mourir. Il veut leur montrer qu'il est Dieu et qu'il sera vainqueur de la mort. Et Pierre dit cette chose très étrange. Il dit, Seigneur, on est bien ici. Je vais faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et l'évangile nous dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Ça veut dire, Seigneur, c'est bien, on va s'installer. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'installe. Mais nous, nous sommes comme ça, les êtres humains. Nous, à 85%, nous sommes Pierre. C'est bien, on va pas changer. On est comme ça. On est bien, Seigneur. Ne change rien. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu veut nous amener au sommet de la montagne, sur le trône avec le Père et l'Esprit. Il veut que nous soyons déifiés. Dieu veut le renouvellement permanent de l'homme par le Saint-Esprit. Dieu veut que l'homme coopère à son œuvre créatrice. Alors vous avez vu, les apôtres, après la résurrection, ils sont complètement dans leur petit monde juif. Le soir de Pâques, le Christ leur dit, partez! Vous avez vu, le Seigneur, il ne s'installe pas dans la Pâque. Attends, c'est merveilleux. Il ne s'installe pas. Dès qu'il est ressuscité, il dit, partez dans l'univers. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils sont attachés au milieu judaïque. C'est grandeur et petitesse d'Israël. Grandeur et petitesse de l'homme. De nous, Israël, c'est le symbole de l'humanité. Il ne bouge pas, c'est toujours le milieu juif. Et quand il va se poser le problème des gens qui sont des païens, ils n'oseront pas. Pierre, il va vouloir imposer la circoncision. Et le Seigneur, il appelle Paul. Vous avez vu? Dieu n'est jamais prisonnier de nos petitesses, ni de nos erreurs, ni de rien. Dieu n'est prisonnier de rien. Pierre a dit, il faut absolument qu'on élise un deuxième apôtre, parce que Judas avait trahi le maître. Bon, ils élisent Matthias. Mais le Christ, il avait choisi Paul. Mais le Christ ne va pas dire, oh, cette élection, elle ne vaut rien. Non. Mais il appelle Paul. Les apôtres, ils sont entre 11 et 13. 11, les 12 moins Judas, 13, les 12 plus Paul. Le nombre sacré, c'est 12. Parce qu'il y avait les 12 tribus d'Israël et les 12 tribus de l'Église. Alors, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire avec Paul. Paul, c'est aux antipodes de Pierre. C'est un juif extrêmement cultivé. C'est un pharisien. Il connaît la loi par cœur. Il pratique tous les articles de la loi. Il est citoyen romain. Il n'est pas en Israël. Il habite en Asie mineure, en Cilicie. C'est aux antipodes. C'est-à-dire que c'est un homme qui réunit en lui l'Orient et l'Occident. La tradition juive et la culture gréco-romaine. C'est un homme d'une grande intelligence. Le Seigneur le foudroie. Pourquoi tu me persécutes ? Mais Seigneur, tu es qui ? Je suis le Christ que tu persécutes. Foudroyé. Qu'est-ce qui est d'extraordinaire chez Paul ? C'est qu'il s'est repenti. Il est entré en lui-même. Il a dit, oui, j'ai péché, Seigneur. Il va servir Dieu. Mais il va le servir avec toutes les qualités extraordinaires que le Seigneur avait mises en lui. Et c'est un homme qui va être d'une audace folle. Quand vous lisez les épîtres de saint Paul, c'est stupéfiant. D'une liberté. Autant les apôtres étaient craintifs, centrés sur les traditions juives. Paul a une ouverture au monde fantastique, extraordinaire. C'est Paul qui dira, je ne vis plus, c'est le Christ qui vit en moi. C'est Paul qui ira vers les païens. Et Paul à Antioche résistera à Pierre. Dans l'épître aux Galates, il dit, je lui ai résisté en face car il s'était donné tort. Après, a lieu le concile des apôtres. Qu'on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé au concile des apôtres ? Pierre a parlé, il parlait très bien. Paul et Barnabé ont dit ce qui s'était passé à Antioche. Ils ont dit, voici les œuvres de Dieu. Et Jacques, qui n'est pas Jacques le majeur, car il a déjà été tué, il a été martyrisé, qui est Jacques le demi-frère du Seigneur, qui est un fils de Joseph. Joseph était veuf. Jacques, qui préside le concile, il dit, voilà, c'est très bien, c'est lui qui conclut le concile. C'est pas Pierre qui préside le premier concile, le concile de Jérusalem. Et les apôtres, ils disent, mais puisque le Saint-Esprit s'est manifesté aux païens, on ne peut pas aller contre Dieu. Et ça, c'est le changement de toute l'histoire du monde. C'est-à-dire, le Christ n'avait pas cessé de dire pendant 3 ans, je ne suis pas venu que pour Israël. Je suis venu sauver le monde entier. Mais ils n'ont pas entendu. C'était trop difficile pour eux, parce que Israël, c'était la descendance d'Abraham. C'était ceux qui avaient écouté Dieu. Et les autres étaient des païens, ils adoraient les idoles. Le Christ a dit, je suis venu sauver l'univers entier. Eh bien, ça, c'est grâce à Paul que ça passe. Et à un moment donné, vous vous souvenez, il va en Asie mineure, il parle beaucoup, et l'Esprit va plus loin. Il lui dit, passe de l'autre côté, va en Europe. Il dit, Seigneur, non, je peux pas. Il dit, va, je suis avec toi. Le Saint-Esprit lui dit, va, il l'attrape par les cheveux, il le jette sur les peuples. C'est pour ça qu'on est chrétien. C'est parce qu'il parle. Il a évangélisé les païens que nous étions. C'est le miracle extraordinaire de Dieu. Vous voyez, Pierre et Paul, ils se complètent. Nous, en général, nous sommes à 95% Pierre dans nos comportements. De 0 à 5% Paul. Paul, c'est le feu. C'est le souffle de l'esprit. C'est le renouveau. Paul ne s'installe jamais. Vous avez vu, les gens, ils veulent le retenir à la fin de sa vie. Il dit, mais il faut que je parte. L'esprit me pousse. Il pleure, il se met à genoux. Il ne part pas. Il dit, je dois aller. De ville en ville, le Saint-Esprit me dit, tu vas être prisonnier à Rome. Je vais mourir. Et voilà le miracle. Je vais terminer là-dessus. Je vous demande pardon, je suis un petit peu long. Voilà deux êtres qui sont apôtres du Christ, l'apôtre des Juifs et l'apôtre des païens, les circoncis et les incirconcis. Miracle, le Saint-Esprit les réunit à Rome, capitale de l'Empire. Et l'Empire romain est une image du monde, c'était le plus grand, le plus extraordinaire empire de toute l'histoire humaine. Et Rome, c'était le centre nerveux, capitale de l'Empire. Et le Saint-Esprit les réunit dans cette ville de Rome. Et dans cette ville de Rome, ensemble, mais séparément, chacun selon sa façon de faire, Paul était prisonnier, hein, citoyen romain. Pourquoi il a été envoyé à Rome, Paul? Parce qu'il était citoyen romain. On n'avait pas le droit de juger comme ça. Il y avait des lois. Pierre et Paul évangélisent la ville impériale qui est la tête de l'Empire. Et tous les deux vont souffrir pour le nom du Christ et tous les deux seront martyrs. Ça, c'est l'image de l'Église. L'Église réunit et rassemble tous les peuples. Les Juifs et les païens. Si tous les peuples de la terre ont leur place dans l'Église. Ça, c'est le miracle. Et l'Église a toujours considéré que cette rencontre de Pierre et Paul était très importante parce qu'elle représente l'Église à venir, qui est aussi l'Église de la fin des temps. On les représente sur l'icône en train de s'embrasser. Ils se donnent le baiser de paix. Chacun ayant mis son charisme propre au service du Christ. Voilà ce qu'il représente et qui est extrêmement important pour nous. C'est le signe de l'Église à venir, l'Église de tous les peuples de la terre. Et à Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles.